Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi.
7h30, toute info avec Agnès Bonfillon pour tout entendre de l'actualité de ce vendredi 30 octobre. Bonjour Agnès.
Bonjour Yves, bonjour à tous. Nissa, la belle, un hymne que les Niçois chantent, y compris dans les moments les plus tragiques, comme après l'attentat du 14 juillet 2016 qui avait fait 86 morts, les habitants ont eu besoin de se retrouver devant la basilique de Notre-Dame de l'Assomption. C'est là, à l'intérieur de l'édifice, hier matin, que trois fidèles ont été tués à coups de couteau. L'une des victimes a trouvé la force de sortir pour chercher de l'aide, réfugiée dans un snack. Elle a succombé à ses blessures quelques minutes plus tard devant les yeux de Brahim, le patron.
J'ai vu une femme traverser la rue, pleine de sang, qu'on a mis à l'abri dans mon restaurant. Elle était encore debout, était traumatisée. On voyait le sang, mais on ne sait pas d'où ça vient. Et c'est elle qui nous a dit, il y a quelqu'un avec un couteau qui est en train de tuer les gens. C'est là qu'on a compris que c'était un attentat. Au début, je me suis dit, bon, elle va se remettre. Mais malheureusement, elle est partie et ça m'a fait mal au cœur. Après, les gens qui sortaient, qui appelaient la police. Donc, il y avait la police municipale qui sont arrivés rapidement. Ils ont intervenu rapidement. C'est cette rapidité qui a évité le pire.
La victime est une mère de famille de 44 ans. Une autre femme de 60 ans a été tuée. Elle aussi était en train de prier lors de l'attentat. Et puis la troisième victime, eh bien c'est le sacristain de l'église. Il était très apprécié au sein de la paroisse, Hugo Hamelin.
Oui, il devait fêter ses 55 ans aujourd'hui même. Serviable, très engagé dans la vie de son église, Vincent Locke prenait son rôle de gardien de la basilique très à cœur. Il organisait la crèche chaque année. Timothée a habité avec lui au centre pastoral pendant 4 ans.
Lorsque j'ai appris que c'était lui, j'étais vraiment sous le choc. Et j'ai beaucoup pleuré en pensant à lui, en pensant que c'était très probablement par héroïsme, parce qu'il s'est sacrifié, parce qu'il connaissait très bien les issues de secours, etc. Et je pense qu'il aurait très bien pu se sauver lui-même. Et je pense qu'il a très probablement dû porter assistance d'abord à ces deux femmes.
Vincent Locke habitait dans un quartier populaire où il était connu pour son engagement social, comme l'explique Redouane.
C'était quelqu'un de bien. Les gens, ils le connaissent dans le quartier. Après, il venait là au secours populaire et les gens, ils venaient de partout pour prendre justement à manger. C'était quelqu'un qui faisait de la charité. C'était un gars comme ça.
Des témoins, des proches qui espèrent, malgré le confinement, qu'un hommage lui sera rendu à l'église, son église Notre-Dame.
Le reportage d'Hugo Hamelin pour RTL. L'assaillant, un Tunisien de 21 ans, arrivé il y a un mois en France, a pu être interpellé, blessé par balle, dans un état critique. Il n'a pas encore pu être interrogé. Ses motivations, pour autant, ne font aucun doute. Le parquet antiterroriste s'est immédiatement saisi de l'enquête. Emmanuel Macron, lui, s'est rendu sur place dans l'après-midi. Comme après l'assassinat de Samuel Paty il y a 15 jours, le président de la République s'est montré ferme. « Nous ne céderons rien », a-t-il dit. Le plan Vigipirate est désormais au niveau maximal. Les forces de l'opération Sentinelle passent de 3 000 à 7 000 militaires sur le terrain. Éviter de tomber dans le piège de la division, le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a tenu à lancer un message de paix au monde musulman.
La France n'est pas le pays du mépris ou du rejet, c'est le pays de la tolérance. N'écoutez pas les voix qui cherchent à attiser la défiance. La religion et la culture musulmane font partie de notre histoire française, européenne. Nous la respectons, alors ne nous laissons pas enfermer dans les outrances d'une minorité de manipulateurs.
Jean-Yves Le Drian, hier à l'Assemblée nationale, alors que ces derniers jours, la tension est vive, vous le savez, entre Paris et Ankara. Eh bien, hier, la Turquie a changé de ton, exprimant sa solidarité.
Je vous rappelle que Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, est l'invité ce matin de Benjamin Sportouche, dans moins d'une dizaine de minutes, sur RTL. Ce matin, la France se réveille donc en état d'urgence, urgence terroriste, mais également sanitaire, Sophie.
Depuis minuit, comme prévu, interdiction de sortir de chez soi, à moins d'avoir un motif valable. Bonjour Sophie Orange.
Bonjour Agnès, bonjour à tous.
Pour ce nouveau confinement, ce n'est pas une attestation, mais trois.
C'est ça, deux attestations permanentes et une attestation temporaire pour justifier vos sorties quotidiennes. Pour les attestations permanentes, il y a d'abord le retour de l'attestation professionnelle. Elle est fournie par votre employeur une fois pour toutes. Pour la durée du confinement, il faudra toujours l'avoir avec vous. Et puis, il y a une nouvelle attestation permanente pour ce deuxième confinement, celle pour accompagner, chercher vos enfants à l'école ou à la crèche. Je ne parle pas du collège et du lycée parce que cet âge-là, les ados, ils vont tout seuls, ils ne veulent surtout pas être vus avec leurs parents. Bref, sur cette attestation l'option scolaire doit figurer le cachet de l'établissement. Alors ce sont les vacances, les délais sont un peu courts peut-être pour lundi, sauf si les directeurs et les principaux vous l'envoient par mail aujourd'hui. Il y aura sûrement une tolérance pour le jour de la rentrée en cas de contrôle. Et la troisième attestation, on la connaît bien, elle permet de sortir de chez soi pour s'aérer, mais pas plus d'1 heure à 1 km maximum de chez vous, sauf si c'est pour faire des courses ou aller chez le médecin. Il y a 9 cases à cocher. Vous pourrez la télécharger sur l'appli Tous Anti-Covid, la trouver sur Internet ou la rédiger sur papier libre.
Merci beaucoup Sophie Orange. Afin que la lutte contre le coronavirus soit la plus efficace possible, le gouvernement rappelle que le télétravail n'est pas une option. Cela veut dire que les entreprises doivent absolument le mettre en place quand c'est faisable.
Parmi les commerces qui vont rester ouverts ces prochaines semaines, il y a les magasins d'alimentation.
Alors ça ne veut pas dire qu'il y aura beaucoup plus de monde dans les rayons, car les Français, déjà très fans de courses en ligne, devraient refaire comme au printemps dernier, multiplier les commandes. Et c'est bien pour cela que les grandes enseignes recrutent depuis hier. Près de Lille, un job dating était organisé chez Leclerc, Franck Hanson.
Dans l'entrepôt de marchandises, la file d'attente de jeunes candidats s'allonge. Session d'entretien pour renforcer les préparateurs de commandes.
Est-ce que ça vous dérange de travailler dans le froid ?
Pas du tout.
Ouais. Ça vous dérange pas de commencer à 5h ou de finir à 21h ou
pas du plus ?
Face au succès de ces formules drive et pour allonger les créneaux de livraison encore plus demandés actuellement, Thomas Pocher a besoin de main-d'œuvre pour ses magasins Leclerc lillois.
L'important pour nous, c'est de répondre à une demande de clients qui, comme lors de la première vague, font confiance à ce système pour lui confier leur courses alimentaires. On est peut-être mieux organisé, moins surpris que la première fois sur les proportions que ça prend. Donc à nous de nous organiser pour disposer de suffisamment de personnes. J'espère qu'on ne fera pas non plus face à trop d'absentéisme lié au coronavirus lui-même.
Parmi les demandeurs d'emploi, de jeunes actifs ou étudiants, bien conscients que le marché est compliqué.
En fait, depuis le confinement, je cherchais un travail pour l'été, j'ai pas trouvé. Je cherchais une alternance, j'ai pas trouvé. Il y a que ces secteurs-là qui recrutent au final depuis le premier confinement. Même si c'est pas le job idéal, on est là, on aide la population et puis au moins on fait quand même tourner l'économie, quoi.
Sur le parking à l'extérieur, des automobilistes toujours plus nombreux à venir récupérer leurs courses.
Le reportage de Franck Hanson à Fretin, près de Lille. Un mot de foot pour terminer. Malgré le deuil, l'OGC Nice s'est imposé hier soir 1-0 contre les Israéliens de l'Apoel Beersheva pour le compte de la deuxième journée de la Ligue Europe. De son côté, Lille a obtenu le match nul de partout contre le Celtic Glasgow.
On se retrouve à 8h40 pour la face cachée de la Une, Agnès.
Oui, il y a de belles histoires, même dans le contexte actuel, je vous assure. À New York, l'une des plus vieilles librairies vient d'être sauvée de la faillite par ses clients.
A tout à l'heure avec Agnès Bonfillon. Il est 7h38. Bonjour François Langlais.
Bonjour Yves.
Le gouvernement nous reconfine et ressort du coup son chéquier.
Oui, effectivement, aide, chômage partiel, crédit d'impôt, le gouvernement met le paquet pour soutenir l'économie. Je vous raconte tout ça dans un instant.
A tout de suite pour l'Angle Éco sur RTL.
RTL, pour tout comprendre de l'actualité.